on va écouter maintenant Marie Garot qui a organisé ce colloque avec les PIB. Marie Garot qui est au laboratoire Sophia Paul et qui va nous parler de la distinction de Berlin à l'aune des analyses contemporaines du pouvoir. Je te laisse la parole.
Merci Vincent. Merci beaucoup. Je commence. Comment définir le pouvoir? Selon quelle modalité s'exerce-t-il? Quels effets produit-il sur ceux sur qui il s'exerce? Ces questions ont été au centre d'un débat qui a agité la science politique, la sociologie et la philosophie de langue anglaise à partir de la fin des années 50 et qui est connu sous le nom de débat sur le pouvoir, power debate en anglais. Dans cette communication, je voudrais revenir sur ce débat pour interroger la distinction de Berlin à la lumière des conceptions du pouvoir qui ont été élaborées. Je chercherai ainsi à apporter des éléments de réponse à deux questions. Ces conceptions du pouvoir valident-elles ou remettent-elles en question la distinction opérée par Berlin? Et dans le second cas, vers quelle conception de la liberté font-elles signe? Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je ferai simplement une précision pour éclairer le sens de ma démarche. Il me semble que si les travaux sur le pouvoir que je vais évoquer ici présentent un intérêt pour repenser la notion de liberté, c'est notamment parce qu'ils permettent de réfléchir à ce qui constitue ou non une contrainte sur la liberté. Or il me semble que c'est en partant de l'analyse de ces contraintes, de la manière dont elles sont induites et des effets qu'elles produisent, qu'il est possible d'élaborer une conception convaincante de la liberté. Bien, donc je procéderai très classiquement en deux points. Je reviendrai d'abord sur le débat en question, en présentant la position de trois des participants directs ou un peu plus lointains au débat. Et ensuite, je reviendrai donc sur la distinction de Berlin à partir de ces éléments. Alors, le débat sur le pouvoir a débuté aux États-Unis à la fin des années 50 avec la publication de deux livres, Community Power Structure, A Study of Decision Makers de Floyd Hunter et The Power Elite de Charles Wright Mills. À deux échelles différentes, celle d'Atlanta pour Hunter et celle des États-Unis pour Wright Mills, ces livres offraient une critique virulente de la démocratie américaine en arguant que le pouvoir y était concentré dans les mains d'une élite dirigeante formée par les individus occupant les positions les plus élevées dans les sphères politiques, économiques et militaires. Alors c'est contre cette thèse qu'a rapidement réagi un groupe de politistes de l'université de Yale réuni autour de Robert Dahl. En 1958, celui-ci publie dans la revue de sciences politiques américaines un article intitulé « A Critique of the Ruling Elite Model » où il met en question l'idée d'élite dirigeante et son corollaire, l'idée d'une distribution radicalement inégalitaire du pouvoir dans la démocratie américaine. Alors Dell mène sa critique essentiellement sous un angle méthodologique, reprochant à Hunter et Wright Mills de n'avoir pas validé empiriquement l'hypothèse de l'élite dirigeante. Il souligne que l'existence de cette élite ne peut être confirmée qu'à trois conditions. Premièrement, il faut qu'elle désigne un groupe social bien défini. Deuxièmement, il faut que dans un nombre significatif de cas, les préférences de ce groupe s'opposent à celles d'un autre ou d'autres groupes. Enfin, troisièmement, il faut que dans ces cas de conflit, de préférences, les préférences de l'élite s'imposent systématiquement. Alors cette critique s'adosse à une définition du pouvoir élaborée par Dahl dans un article de 1957 et intitulé « The Concept of Power ». Dahl y définit le pouvoir comme, je cite, « la tentative réussie de la part de A de faire faire à B quelque chose qu'il n'aurait pas fait autrement ». Alors cette définition peut être dite étroite dans la mesure où elle identifie le pouvoir à son exercice. Et elle peut aussi être qualifiée de behaviorist dans la mesure où elle réduit l'exercice du pouvoir à une action ponctuelle, suscitant chez autrui un changement de comportement observable. Alors c'est elle, cette définition, qui va servir de base au livre de Dahl intitulé Who Governs, paru en 62. Alors dans ce livre, Dahl analyse la répartition du pouvoir dans la ville de New Haven, Connecticut. Il entend montrer que sa définition du pouvoir est empiriquement opératoire et permet d'aboutir à des conclusions radicalement différentes de celles de Hunter et Wright Mills. Il identifie donc trois secteurs clés de la politique municipale, le développement urbain, les nominations aux postes politiques et la modernisation des écoles publiques, avant, dans un second temps, d'étudier la manière dont les décisions qui relèvent donc de ces secteurs sont prises. Alors, pour ce faire, il se concentre sur les questions suivantes. Qui initie les propositions? Qui met son veto? Quel groupe parvient à imposer sa décision? Alors, l'idée est ainsi que le pouvoir d'un individu ou d'un groupe se mesure à sa capacité effective à faire prévaloir ses préférences sur celles d'un autre, dans le cadre d'un conflit ouvert. Alors, bien sûr, le privilège accordé par Dahl à l'étude du processus de prise de décision et aux situations de conflit ouvert est directement lié à la critique épistémologique adressée à Hunter et Mills. En se concentrant sur la prise de décision, Dahl s'assure de ranger sous le concept de pouvoir des comportements strictement observables. Et en privilégiant les situations de conflit, il s'épargne la tâche délicate consistant à identifier ce que l'agent sur qui le pouvoir s'exerce aurait fait en l'absence d'un tel pouvoir. Au terme de son étude, Dahl parvient à la conclusion qu'il n'y a pas d'élite dirigeante à New Haven, si on entend par là l'alliance d'individus occupant des positions dominantes dans différents champs, porteurs d'intérêts communs et capables de les faire prévaloir sur ceux des autres citoyens. L'étude du processus de prise de décision révèle plutôt que le pouvoir est dispersé entre différents groupes et décideurs qui poursuivent des buts spécifiques, entretiennent des rapports de compétition et sont obligés parfois de négocier, mais au cas par cas. À l'idée d'élite dirigeante, Dahl substitue donc celle de polyarchie, situation dans laquelle le pouvoir se divise entre une multiplicité de groupes et de décideurs aux intérêts différents. C'est la raison pour laquelle sa position sera qualifiée de pluraliste. Alors, rapidement, et c'est un petit peu le deuxième moment de ce débat, les conclusions de Dahl et la conception du pouvoir sur laquelle ces conclusions reposent vont être soumises à la critique. Les critiques sont d'abord provenues de Peter Bakrash et Morton Baratz dans un article intitulé « Two Faces of Power ». Bakrash et Baratz reprochent à Dahl et aux pluralistes en général d'avoir restreint à tort l'extension du concept de pouvoir pour des raisons méthodologiques. Souhaitant faire du pouvoir un phénomène observable et mesurable, les pluralistes ont réduit le pouvoir à la capacité effective de faire prévaloir ses préférences dans le cadre d'une prise de décision conflictuelle. Mais ce faisant, ils se sont interdits de penser des formes de pouvoir qui ne passeraient pas par la participation à la prise de décision, ou des formes de pouvoir qui n'affecteraient pas d'abord le résultat de ce processus, mais plus radicalement, la manière dont le processus est cadré, conduit et défini. Alors je cite les auteurs. « Bien sûr, le pouvoir s'exerce quand A participe à une prise de décision qui affecte B. » Mais le pouvoir s'exerce aussi quand A met son énergie au service de la création ou du renforcement de valeurs sociales et politiques et de pratiques institutionnelles qui limitent la portée du processus politique à la considération publique de questions qui sont comparativement inoffensives pour A. Donc selon les auteurs, le pouvoir aurait deux visages ou deux dimensions. Il se manifesterait d'abord de manière ouverte dans la capacité à imposer ses préférences à autrui dans le cadre d'une prise de décision, ce que Dahl donc avait souligné, mais il se manifesterait aussi dans la capacité à exclure certaines questions, préoccupations ou voix de la discussion publique et du processus de prise de décision. Par conséquent, étudier le pouvoir et sa répartition suppose avant tout d'étudier ce que les auteurs appellent la mobilisation du biais, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs, procédures et règles qui façonnent le processus de prise de décision et dont certains retirent des bénéfices tandis que d'autres en pâtissent. Cela suppose également d'étudier les non-décisions, c'est-à-dire de repérer les questions ou les préoccupations qui ne font jamais l'objet d'une discussion, mais qui s'expriment hors du processus politique sous la forme de doléances. Alors, si la conception du pouvoir de Bakrash et Baratz est plus large, évidemment, que celle de Dahl, elle paraît encore insuffisante à Stephen Lukes. Comme il l'explique dans le livre « Power, a Radical View » paru en 1974, Bakrash et Baratz restent en effet prisonniers de présupposés problématiques issus des analyses pluralistes. Ces présupposés sont les suivants. Premièrement, le pouvoir s'exerce par le biais d'actions ponctuelles. Deuxièmement, le pouvoir se repère à l'existence d'un conflit, que celui-ci soit exprimé dans le processus politique ou à sa marge. Or, selon Lukes, le pouvoir ne s'exerce pas uniquement par le biais d'actions ponctuelles, il a une dimension structurelle. De plus, sa manifestation suprême tient dans la capacité de l'agent individuel ou collectif qui le possède à prévenir l'irruption d'un conflit en s'assurant que ceux dont les intérêts sont affectés négativement par ces actions accepteront leur situation, soit parce qu'ils n'y voient pas d'alternative, soit parce qu'ils la jugent naturelle ou intangible, soit encore parce qu'ils la trouvent désirable, voire bénéfique. Donc pour Lux, le pouvoir ne se réduit donc ni à la capacité de faire prévaloir ses préférences dans une prise de décision, ce qui était la position de Dahl, ni même à la capacité de cadrer les termes du débat et de contrôler les questions sur lesquelles une décision devra être prise, ce qui était la position de Bakrach et Barentz. Il possède une troisième dimension qui consiste, je cite, à prévenir l'apparition d'un éventuel conflit ou la formulation de doléances en forgeant les perceptions, les représentations et les préférences des agents, de sorte qu'ils acceptent le rôle qui leur est attribué dans l'ordre des choses existantes. Alors, pour illustrer cette troisième dimension, Lux s'appuie dans son livre sur une enquête sociologique menée par Matthew Cranson, qui s'intéresse aux raisons pour lesquelles la question de la pollution de l'air a constitué très tôt un enjeu politique central dans certaines villes américaines, tandis qu'il est resté un non-enjeu dans d'autres. Alors, Cranson se concentre sur deux villes de l'Indiana. Et après avoir montré que les différences dans la manière d'aborder ou non la question de la pollution de l'air ne sont pas du tout corrélées au niveau effectif de pollution, il souligne le rôle joué par la présence dans l'une des deux villes de l'entreprise US Steel. Alors, selon Cranson, US Steel ne s'est jamais ouvertement mobilisé contre la possibilité d'un décret anti-pollution, mais la réputation dont jouit l'entreprise en tant que principal employeur dans la ville a suffi à ce qu'un tel décret ne voit pas le jour ou à ce que sa possibilité ne soit pas envisagée. Comme il l'écrit, il y a quelque chose comme une idéologie inarticulée dans les institutions politiques, une idéologie au sens où elle promeut une perception et une formulation sélective des problèmes et des conflits sociaux. Alors, les analyses de Lux font donc signe, on le voit bien, vers une conception plus riche du pouvoir, une conception qui entend tenir compte des dimensions à la fois structurelles et discursives ou symboliques du pouvoir. Pourtant, il ne me semble pas qu'elle débouche non plus sur un concept pleinement convaincant. D'abord, pour trois raisons que je cite brièvement. D'abord, si Lux propose bien un concept générique de pouvoir qu'il définit comme la capacité d'un agent à affecter négativement un autre agent, il en dit peu sur les modalités pas précises par le biais desquelles le pouvoir opère. Deuxièmement, il identifie trop rapidement, me semble-t-il, le pouvoir avec la capacité d'affecter négativement les intérêts d'autrui, se privant ainsi de penser des possibles usages positifs du pouvoir sur autrui. Enfin, s'il souligne que le pouvoir a une dimension structurelle, il ne précise pas comment penser le rapport entre action et structure. Alors, ce sont ces écueils que va justement chercher à éviter un auteur plus contemporain et donc plus éloigné de ce débat, mais qui a pour ambition de repenser un petit peu les termes dans lesquels ce débat a été posé, et donc que j'évoquerai pour finir cette première partie, qui s'appelle Thomas Wartenberg. Donc, dans un livre qui est publié 15 ans après l'article de Lux et qui est intitulé The Forms of Power, From Domination to Transformation. Alors, dans ce livre, Wartenberg élabore une conception assez sophistiquée du pouvoir, donc je soulignerai simplement ici quelques aspects qui m'intéressent. Alors, Wartenberg part de la définition du pouvoir suivante, je le cite, « Un agent A a un pouvoir sur un agent B si et seulement si A contraint de manière stratégique l'environnement d'action de B ». Alors le concept important ici est celui d'environnement d'action qui constitue, selon Wartenberg, la cible du pouvoir. Par là, Wartenberg désigne les cours d'action alternatifs dont dispose un agent, mais également l'interprétation et l'évaluation que l'agent fait des cours d'action qui lui sont accessibles. Alors, il identifie également trois modalités du pouvoir qu'il nomme respectivement la force, la coercition et l'influence. Alors, rapidement, la force désigne la capacité d'un agent A à empêcher physiquement un agent B de faire une action donnée, ce qui implique le plus souvent une action soit sur le corps de B, soit sur ses possessions. La coercition désigne la capacité d'un agent A à modifier le cours d'action d'un agent B via la formulation d'une menace qui modifie la structure des opportunités accessibles à B dans un sens qui lui est défavorable. Enfin, l'influence, modalité du pouvoir purement discursive ou symbolique, désigne la capacité d'un agent A à modifier la perception ou l'évaluation qu'un agent B fait de son environnement d'action. Alors, selon Wartenberg, ces trois modalités du pouvoir ne sont pas du tout exclusives l'une de l'autre, mais au contraire, s'appellent l'une l'autre. Ainsi, il montre que la force est une modalité du pouvoir essentiellement répressive, qui ne peut donc véritablement faire faire quelque chose à autrui. De plus, que c'est une modalité du pouvoir un peu économique pour le dominant, car elle requiert d'être exercée en permanence pour produire ses effets. Enfin, que du fait même qu'elle requiert d'être exercée en permanence, elle est structurellement ouverte à la possibilité de la contestation ou de la résistance. C'est pourquoi la force va logiquement laisser place à la coercition, qui, elle, est productive. Elle fait faire des actions et ces actions ont éventuellement des bénéfices pour celui qui opère la coercition. Mais elle est aussi plus économique, puisqu'elle repose essentiellement sur la croyance de B dans la capacité de A à mettre à exécution sa menace. Alors, le problème, évidemment, de la coercition, c'est qu'elle se présente explicitement comme une contrainte, et par conséquent, elle n'annule pas pour autant la possibilité de la résistance ou de la contestation, d'où l'intérêt du recours à la dernière forme, ou dernière modalité, plutôt du pouvoir que Wartenberg identifie, l'influence, qui constitue la forme de pouvoir la plus stable, car la plus difficile à repérer. Alors, troisième point intéressant, c'est que Wartenberg cherche également à montrer ce que le pouvoir des agents doit au contexte social plus large dans lequel ces agents s'inscrivent, via ce qu'il appelle une conception située du pouvoir social, dont l'enjeu, le but explicite est de dépasser les conceptions du pouvoir centrées sur la relation entre deux agents et de mettre en évidence la dimension structurelle du pouvoir. Alors, cette conception située repose sur le concept d'alignement social. Alors, par là, Wartenberg désigne la coopération, intentionnelle ou non, d'agents sociaux qui sont situés à la périphérie de la relation, qui disposent de la capacité à distribuer un certain nombre de biens sociaux et dont les actions convergentes vont avoir pour effet de constituer une relation entre deux agents comme une relation de pouvoir. Alors, pour illustrer ce point, il prend l'exemple du pouvoir d'un mari sur sa femme dans une société sexiste. Et il montre que ce pouvoir repose pas essentiellement du tout sur les intentions du mari. Il repose en premier lieu sur les actions convergentes d'agents périphériques au couple. Il se fonde en effet sur la dépendance de la femme à l'égard de son mari, mais cette dépendance est constituée par la manière dont les femmes en tant que groupe sont traitées par des agents sociaux extérieurs au couple, qu'ils soient individuels ou institutionnels. Donc parmi ces agents, il y a les employeurs qui vont offrir des opportunités professionnelles comparativement moins bonnes aux femmes qu'aux hommes. Il y a les concepteurs de politique publique qui vont inciter davantage les hommes que les hommes à se retirer du marché de l'emploi à la naissance des enfants. Il y a les institutions éducatives, sanitaires et sociales qui vont perpétuer via leur pratique l'idée qu'il revient d'abord aux femmes de s'occuper de leurs enfants, etc. Donc ces actions convergentes, note Wartenberg, indiquent l'existence d'un alignement social centré sur le genre en raison duquel les maris disposent d'un pouvoir de fait sur leurs femmes, qu'ils le veuillent ou non. Ce pouvoir produit, dit-il, des effets similaires à la coercition, dans la mesure où il restreint les opportunités accessibles aux femmes et attache un coût particulier à certaines d'entre elles, mais il ne relève pas de la coercition, car il dérive des actions convergentes d'agents sociaux périphériques et repose essentiellement sur des catégories de perception et d'évaluation. Donc cette double dimension structurelle et symbolique rend ce pouvoir particulièrement difficile à identifier. C'est pourquoi il est souvent perçu comme un donné ou comme un trait objectif de leur situation par les femmes qui vont le prendre comme tel en considération dans l'élaboration de leur projet de vie. Alors, cet exemple, donc, qui était destiné à montrer la manière dont Wartenberg essaye d'articuler une dimension structurelle, enfin d'inclure une dimension structurelle dans sa conception du pouvoir, cet exemple pourrait évidemment laisser penser que Wartenberg assimile pouvoir sur et domination. Mais ce n'est pas le cas, et c'est là, il me semble, le dernier intérêt de son approche, donc je finirai par là. Donc contrairement à Lux, pour qui, on l'a vu, le pouvoir affecte toujours négativement celui sur qui il s'exerce, Wartenberg propose de distinguer deux finalités distinctes du pouvoir, donc finalités qui distinguent des modalités, qui sont les modes opératoires du pouvoir, donc les fins que servent le pouvoir, dans un cas la domination et dans l'autre la transformation, ce qu'il appelle la transformation. Alors la domination, qui renvoie pour lui d'abord à une relation entre groupes sociaux avant de renvoyer à une relation entre individus, désigne un exercice du pouvoir répété et systématique qui s'opère au détriment de l'agent dominé. Donc elle renvoie à une situation sociale dans laquelle le pouvoir d'un groupe sur un autre est devenu un trait permanent de l'environnement d'action du second. Donc c'est ce qu'indiquait l'exemple préalable de la femme et de son mari. Alors Wartenberg en distingue deux formes de domination qui peuvent s'articuler en pratique. La domination peut reposer, dit-il, sur des bases matérielles et s'instaurer prioritairement par le biais de la force et de la coercition, mais elle peut aussi reposer sur des bases essentiellement symboliques et opérer par le biais de l'influence, c'est-à-dire d'un travail sur les catégories de perception et d'évaluation. Alors à l'inverse, la transformation, ce qu'il appelle la transformation, relève d'un usage positif du pouvoir sûr. Le pouvoir y est exercé en vue de promouvoir les intérêts de l'agent sur qui il s'exerce, et il vise en outre à sa propre disparition et non à sa perpétuation. Selon Wartenberg, la relation pédagogique, la relation parentale et la relation thérapeutique peuvent en droit, sinon en fait, relever de cet usage transformateur du pouvoir. Bien, j'en viens maintenant à ma deuxième partie après ce bref tour d'horizon. Donc il me semble que les travaux à la fois de Bakrach et Barat, de Lux et de Wartenberg entendent chacun à leur manière montrer que le pouvoir, loin de se réduire comme Dahl le présupposait à l'intervention ponctuelle d'un agent dans la sphère d'action d'un autre, est un phénomène complexe, tant en vertu des modalités selon lesquelles il agit qu'en vertu des effets qu'il peut produire sur ceux sur qui il s'exerce. Alors il me semble notamment que ces travaux conduisent à prendre au sérieux les thèses suivantes. Premièrement, le pouvoir peut produire des effets sans que celui qui le possède fasse quoi que ce soit, mais simplement parce qu'il a la capacité de faire quelque chose. Donc le pouvoir est irréductible à son exercice. Deuxièmement, cette capacité et par suite le pouvoir d'un agent sur un autre ne dépend pas forcément de l'agent lui-même. Elle peut être constituée par la manière dont d'autres agents extérieurs à la relation se rapportent à lui et coopèrent avec lui. Donc c'est là la dimension structurelle du pouvoir. Et enfin, le pouvoir peut affecter la manière dont les agents perçoivent et évaluent les opportunités qui sont les leurs, et non seulement la structure objective de leurs opportunités. Donc c'est la dimension symbolique ou discursive du pouvoir. Alors à leur tour, il me semble que ces thèses ont des conséquences sur la manière dont on peut définir la liberté, et il me semble qu'elles conduisent notamment à pointer certaines des limites de chacun des deux concepts de liberté que Berlin a distingués dans l'article 258. Alors, on a abondamment entendu parler lors de ces deux jours de chacune de ces deux conceptions, donc j'irai relativement vite. La conception négative de la liberté définit celle-ci en référence à la sphère d'action libre de toute interférence, dont un agent bénéficie. Donc l'idée, c'est que plus cette sphère est étendue, plus la liberté de l'agent est importante. Cette conception de la liberté va ainsi de pair avec une conception particulière de ce qui compte comme une contrainte. Les contraintes qui réduisent ma liberté dans cette perspective sont généralement identifiées comme des contraintes externes, qu'il est en outre possible de rattacher causalement à l'action d'autres agents. Par conséquent, la conception négative de la liberté permet de critiquer l'usage de la force et l'usage de la coercition, dans la mesure où celle-ci relève à l'évidence de formes d'interférence ou de contraintes ainsi comprises. De plus, et comme l'a montré Yann Carter, la conception négative de la liberté permet aussi, et à condition qu'on la complexifie suffisamment, de prendre en charge la critique des formes de pouvoir qui agissent par le biais d'interférences non intentionnelles et par le biais d'interférences potentielles et non seulement actuelles. L'une des ambitions du travail de Carter, et puis de Kramer aussi d'ailleurs, mais je ne vais pas le citer parce que je le connais vraiment très mal, c'est justement de montrer que tout en restant dans le cadre d'une conception négative de la liberté, il est possible de faire la critique d'un nombre bien plus grand de formes de pouvoir que ce qu'on a généralement l'habitude de croire. Pour ce faire, il suffit, selon ses auteurs, d'une part de souligner que la liberté se mesure à l'étendue des actions compossibles, accessibles pardon, à un individu, et non pas simplement à l'étendue des actions accessibles, et d'autre part d'étendre la notion d'interférence à des cas habituellement peu considérés par les théoriciens de la liberté négative, interférence potentielle et non intentionnelle en l'occurrence. Alors, malgré le travail de complexification opéré par ses auteurs, on peut se demander, en tout cas je me demande, si la conception négative de la liberté suffit pour fonder une critique des formes de pouvoir qui opèrent par le biais de l'influence, c'est-à-dire selon des modalités essentiellement symboliques. En effet, ce que Wartenberg appelle l'influence ne modifie pas, on l'a vu, la structure des opportunités accessibles à l'agent ou l'étendue de sa sphère d'action. Ce qu'elle affecte, c'est la perception ou l'évaluation que l'agent fait de ses opportunités, autrement dit, le jugement qu'il porte sur elles et par ce biais les désirs et les préférences qui sont les siens. Alors comment ? Dans son livre, Wartenberg souligne qu'il y a différentes manières d'agir sur l'évaluation qu'un agent fait des opportunités qui lui sont accessibles. Il souligne que cette évaluation dépend en effet, premièrement, de l'anticipation que l'agent fait des réactions des autres à ses propres choix, qu'elle dépend également des responsabilités réelles ou imaginaires qu'il pense avoir vis-à-vis des autres, enfin qu'elle dépend de la représentation de soi de l'agent, ce qui signifie donc qu'en affectant ces différents types ou ces différentes catégories de représentation, le pouvoir peut modifier l'évaluation que l'agent fait de ses opportunités et par suite ses désirs. Donc ceci signifie que les effets de l'influence ne peuvent se repérer que si l'on examine la manière dont les désirs et les préférences de l'agent sont forgés. Mais dans la mesure où les conceptions négatives de la liberté entendent se passer de toute référence à l'intériorité de l'agent pour se concentrer sur l'étendue de sa sphère d'action, on peut douter par conséquent qu'elles permettent de repérer et du coup de critiquer les formes de pouvoir qui opèrent par le biais de l'influence. Alors qu'en est-il du coup de la liberté positive ? Selon Berline, on l'a vu ce matin, la liberté positive entend moins répondre à la question de l'étendue de la sphère d'action libre d'interférence qu'à la question de la source de l'interférence ou du contrôle. Pour être libre, l'agent doit exercer un contrôle sur lui-même. En outre, l'intérêt de cette conception de la liberté est de faire droit à l'idée de contrainte interne et non seulement externe sur la liberté. Donc là, je me rends compte à quel point mon approche est schématique après les clarifications qu'on a eues de la part de Marlène ce matin. Mais bon, j'en resterai à cette interprétation très classique. Certaines représentations, donc certains sentiments, certains attachements peuvent fonctionner dans cette perspective comme des entraves à la liberté. Alors, parce qu'elle se concentre du coup sur le rapport à soi de l'agent ou sur son intériorité, la conception positive de la liberté semble plus prometteuse que la conception négative, notamment quand il s'agit de produire une critique des formes discursives ou symboliques de pouvoir. Elle semble en effet capable de prendre en charge la question de la formation des désirs et des préférences de l'agent, et se faisant de montrer comment des formes discursives ou symboliques de pouvoir peuvent porter atteinte à la liberté de l'agent. Alors, la manière dont Berline définit la liberté positive n'est cependant pas indemne de problèmes. Bon, mais là encore, on a vu ce matin que, et hier aussi d'ailleurs ça a été évoqué, que c'est sûr que Berline agrège toute une série d'aspects différents pour définir la liberté positive, donc c'est pas très difficile finalement de trouver des points d'entrée pour la critique ici. Le premier problème, c'est que la liberté positive semble supposer le recours à l'idée de moi authentique. Le second, c'est qu'elle semble requérir, tout comme la liberté négative d'ailleurs, bien qu'en un sens différent, que le sujet soit capable de tracer autour de lui ce que Berline appelle des frontières infranchissables. Or, les conceptions du pouvoir que j'ai évoquées tout à l'heure, notamment celles de Lux et de Wartenberg, conduisent évidemment à mettre en question la possibilité d'un tel retrait en soi, mais également l'idée même d'un moi authentique. Que certaines formes de pouvoir puissent affecter les désirs et les préférences de l'agent indique en effet que les frontières entre le moi et le monde social sont poreuses et souligne par contraste la vanité ou l'irréalisme d'une stratégie de repli en soi sur laquelle la conception positive de la liberté semble être fondée. De plus, si les analyses que Wartenberg consacre au pouvoir transformateur sont exactes, cette stratégie de repli en soi n'est pas simplement vaine car impossible, elle pourrait également se révéler dommageable, au sens où elle risque de priver l'agent des formes positives de pouvoir qu'autrui peut exercer sur lui et dont Wartenberg montre qu'elles sont essentielles à la constitution de son autonomie. Et cette dernière remarque vaut également évidemment pour la conception négative de la liberté. En faisant de toute interférence une limite ou une atteinte à la liberté de l'agent, celle-ci semble incapable de penser la manière dont l'exercice du pouvoir peut s'avérer bénéfique à l'agent et paradoxalement contribuer à la construction de son autonomie.
Il me reste combien de temps ? Il reste 3 minutes.
Ah, bon, je...
C'est bien.
Ouais. Peut-être 5 ?
Oui, bien sûr.
Au terme de cette communication, il semble donc que, d'une part, la liberté négative soit trop étroite pour prendre en charge l'analyse et la critique du pouvoir dans ses différentes formes, et d'autre part, que la liberté positive renvoie dans sa version individuelle à un idéal inaccessible que les analyses contemporaines de la notion de pouvoir conduisent également à mettre en question. Enfin, on peut ajouter qu'aucune de ces deux conceptions ne semble permettre de penser la positivité du pouvoir sûr, c'est-à-dire la manière dont il peut contribuer à la construction de l'autonomie des agents. Alors la question qui se pose est du coup la suivante, si ni l'absence d'interférence extérieure ni la maîtrise rationnelle de soi ne constituent des conceptions de la liberté susceptibles de fonder une analyse et une critique du pouvoir, quelle conception faudra-t-il privilégier ? Alors pour conclure, j'évoquerai très très brièvement deux pistes, simplement. La première est évidemment la conception républicaine de la liberté élaborée par Philippe Pettit, dont Cécile a parlé précédemment, qui définit celle-ci comme absence de domination, c'est-à-dire comme absence d'interférence arbitraire ou comme absence de contrôle étranger de la part d'autrui. Alors, la conception de Pettit semble être une bonne candidate pour remplir le rôle qu'on voudrait lui faire remplir pour plusieurs raisons. D'abord, elle a pour ambition de dépasser la distinction entre liberté positive et liberté négative. Ensuite, elle est bien évidemment construite sur la base d'une réflexion sur la domination. Enfin, elle peut permettre de faire droit aux formes de pouvoir qui ne menacent pas la liberté, mais au contraire la protègent, grâce au concept d'interférence non arbitraire. Alors, en dépit de ces apports, il me semble que la conception de Pettit n'est pas pleinement convaincante, et ce, principalement pour deux raisons. La première, c'est qu'elle s'adosse à une définition de la domination qui me semble encore étroite. Si Pettit ne réduit évidemment pas l'interférence à l'interférence actuelle, et s'il souligne bien sûr que le pouvoir peut avoir pour effet d'inhiber la capacité de choix et non seulement de modifier la structure des opportunités d'un agent, il n'est pas sûr que son approche, qui insiste pour définir la domination comme une forme de pouvoir intentionnelle, permettent de rendre compte de la dimension structurelle du pouvoir pointée par Lux et Wartenberg. Surtout, et en dépit de sa volonté de dépasser la distinction de Berlin, la conception républicaine de la liberté demeure, à mon avis, encore trop fortement ancrée dans l'orbite des conceptions négatives de la liberté. Autrement dit, elle ne mentionne l'intériorité de l'agent que dans la mesure où celle-ci peut être mise en question par certaines formes de pouvoir relevant de la domination. Mais elle maintient fermement, en tout cas sur le plan politique, que la liberté repose sur la suppression de ses formes de pouvoir et n'implique pas que l'agent acquiert un contrôle sur lui-même ou sur son environnement. Cette position, qui s'explique notamment par la volonté de Pettit d'éviter l'écueil du perfectionnisme, ne me paraît cependant pas convaincante. À partir du moment où l'on reconnaît que certaines formes de pouvoir peuvent affecter la représentation que les agents se font d'eux-mêmes, il me semble qu'il faut aussi reconnaître que la liberté repose sur des conditions psychologiques qui peuvent elles-mêmes dépendre d'un environnement relationnel et social. Ce que Marlène a montré, il me semble bien, ce matin en conclusion. Pour ces deux raisons, il me semble que l'élaboration d'une conception de la liberté capable de fonder une critique du pouvoir tout en reconnaissant la positivité de ce dernier devrait passer par une autre voie. Alors la seconde piste qu'il faudrait s'atteler à développer, là c'est vraiment une piste, correspond à ce qu'on pourrait appeler une conception sociale de la liberté. Donc c'est une piste, non pas, vous allez le comprendre, au sens où il n'y a pas matière à construire cette conception, mais plutôt au sens où je n'ai pas fait ce travail pour cette communication. Alors on en trouve des éléments chez différents auteurs contemporains qui se sont attachés à reconstruire le concept de liberté positive en partant d'une analyse des obstacles internes et externes à la liberté tels qu'ils sont engendrés par des processus sociaux comme notamment la désaffiliation et la domination notamment de genre. Je pense ici par exemple à Axel Honneth, mais aussi à des auteurs féministes comme Nancy Hirschman ou Carol Gould. Alors ces tentatives traduisent moins une volonté de congédier la conceptualisation de Berlin en termes de liberté négative et de liberté positive qu'une volonté d'articuler certains aspects de ces deux conceptions dans une conception de la liberté qui permet de rendre compte des différents types de contraintes susceptibles d'amoindrir la liberté, qu'elles soient internes ou externes, mais aussi de la manière dont ces contraintes sont articulées les unes aux autres et notamment la manière dont l'environnement peut évidemment engendrer des formes de contraintes internes. Alors dans cette perspective, la liberté, me semble-t-il, aurait deux dimensions également importantes. Elle se manifesterait d'abord dans l'instauration d'un certain type de rapport à soi, en l'occurrence dans la capacité de l'agent à réfléchir de manière critique à ses désirs et à ses préférences, et dans sa capacité à choisir parmi ces derniers ceux dont la réalisation favorise le développement de soi. Donc on a une première strate qui serait une strate d'autonomie finalement. Et elle se manifesterait également dans l'instauration d'un certain rapport à l'environnement extérieur que l'on pourrait définir via l'idée de capacité à agir sur la structure des opportunités accessibles ou encore par l'idée de contrôle sur l'environnement. Alors cette conception de la liberté, que je ne développerai pas beaucoup plus donc ici, peut être qualifiée de sociale pour deux raisons me semble-t-il. D'abord parce qu'elle repose sur une conception de l'agent comme être essentiellement social, dont les capacités et l'identité se construisent par le biais de l'interaction avec autrui, conception dont il me semble que les travaux sur le pouvoir montrent la pertinence. Ensuite, parce que dans cette conception de la liberté sous ses deux versants, contrôle sur l'environnement et autonomie, désigne, il me semble, un accomplissement essentiellement collectif. Seule la coopération avec autrui peut permettre de la développer, de la maintenir et de l'augmenter. Alors pour terminer sur ce point, si j'ai encore une minute.
45 secondes.
D'accord. Je voudrais noter que c'est un point que montre bien par exemple Nancy Hirschman quand elle réfléchit dans un article qui s'appelle Toward the Feminist Theory of Freedom, où elle réfléchit donc sur la distinction de Berlin, à l'expérience des mouvements féministes des années 70 et à la conception de la liberté que ces mouvements ont à la fois illustré et promu. Hirschman souligne que l'accès des femmes à la liberté dans ce cadre et dans les deux dimensions que j'ai identifiées, autonomie personnelle et pouvoir d'agir sur la structure des opportunités accessibles, a été rendu possible par leur participation à des groupes de discussion et de mobilisation. Groupes qui ont constitué pour les femmes des espaces d'échange, de confrontation de points de vue et de soutien mutuel, qui ont aussi été des lieux d'invention d'un langage politique et revendicatif et de formes d'action collective. Ainsi, ces groupes ont permis aux femmes de transformer leur image d'elles-mêmes et de se penser comme des sujets capables d'action. Ce faisant, ils leur ont permis de se mobiliser pour obtenir de nouveaux droits et la transformation de normes et de modes d'organisation sociale traditionnels. Donc, pour reprendre le vocabulaire de Wartenberg, ces formes de coopération ont permis d'altérer un alignement social existant, centré sur le genre, en créant un alignement social alternatif. En retour, ce dernier a permis aux femmes de questionner et d'exprimer leurs désirs. Il leur a aussi donné un pouvoir nouveau sur leur environnement d'action. Et en ce sens, il me semble qu'il a joué un rôle décisif dans l'accès de ces femmes à une liberté bien comprise.
Merci. Merci. Alors, il nous reste à peu près 10 minutes de discussion, puis on aura une pause ensuite pour continuer ou prolonger cette discussion, parce que 10 minutes, je suis peut-être un peu généreux si on veut respecter les 15 minutes de pause annoncées par le programme. Donc, je prends les questions. Oui, je perds enfin.
Comment tu vois les choses? J'ai l'impression que parfois, quand on parle des définitions de pouvoir, les trois premiers avec Barak, Lux et tout ça, ils regardent du côté de celui ou celle qui exerce, alors que d'un autre côté, on peut regarder le pouvoir de celui sur ou celle sur laquelle le pouvoir est exercé, et que c'est ça qui fait un peu le plus de... Je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça.
Alors, je pense que pour Lux, je pense pas que ce soit évident. Je pense que lui, il met vraiment l'accent justement. Il essaye de. Enfin, je pense que t'as raison pour Dal et Bakrash et Barat. C'est-à-dire que eux, ils sont encore très, je pense, dépendants d'une épistémologie dans laquelle l'idée c'est qu'il faut mesurer, observer, etc. Et donc, effectivement, ils vont se focaliser plutôt sur les actions du dominant. En revanche, il me semble que Lux, justement parce qu'il critique des conceptions aussi de l'agent et du travail qu'il faut faire en sciences sociales qui sont trop pauvres chez ses auteurs, il va essayer de réfléchir au pouvoir du point de vue des effets qu'il produit, et notamment du point de vue, en gros, c'est, en fait on est très proche, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans des articles ultérieurs de la notion de violence symbolique chez Bourdieu par exemple. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est la manière dont le pouvoir affecte les préférences et les désirs des agents. J'ai l'impression que, au contraire, enfin moi, ce qui me manque un peu dans son approche, c'est que parce qu'on insiste sur les effets et que donc on se concentre essentiellement sur celui sur qui le pouvoir est exercé, finalement on a plus tellement de précision sur les modalités en fait d'exercice du pouvoir.
Parce que ma question, c'est est-ce que si on regarde juste du côté de celui sur, ou celle sur laquelle le pouvoir est exercé, est-ce que c'est pas trop diffus? Est-ce que du coup on peut plus savoir ce que l'autre peut faire pour s'arrêter d'exercer le pouvoir? Tu vois, si on a une perspective de l'agent qui exerce le pouvoir, on peut se dire on peut lui dire de s'arrêter, oui. Alors que de l'autre côté, le pouvoir diffus, l'influence.
Oui. Oui, mais alors là, c'est une question un peu différente. C'est la question qui porte, il me semble, plutôt sur est-ce que ça fait sens de parler de l'influence ou d'une forme discursive de pouvoir.
Parce que je pense qu'il y a des hommes qui sont dans une, qui exercent le pouvoir parce qu'il y a tout un ensemble de normes. Ils ne peuvent pas s'arrêter individuellement et dire voilà, maintenant je n'exerce plus le pouvoir. La question, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le caractère, d'un côté individuel de l'exercice du pouvoir, pour la première définition, ensuite d'un côté collectif de l'exercice du pouvoir?
Oui, alors, c'est ce que Wartenberg essaye de penser alors, à deux niveaux, à travers l'idée de pouvoir social situé, donc d'élargir la focale pour montrer comment le pouvoir d'un agent sur un autre finalement est contre-dépendant d'un ensemble d'arrangements sociaux préexistants, et à travers l'idée que la domination concerne finalement d'abord des groupes plutôt que des individus. Alors du coup, ta question, ça serait... est-ce que en se focalisant sur ces formes de pouvoir-là, on perd pas toute opérativité au concept, c'est ça? Alors, je pense que tout dépend aussi justement de la focale, c'est-à-dire que effectivement, si tu insistes pour décrire le pouvoir du point de vue de celui sur qui il s'exerce uniquement, je pense qu'effectivement, le propre des formes discursives de pouvoir, c'est qu'elles sont beaucoup plus difficiles à identifier. Et le problème, c'est que, et c'est ce que dit Lux, il dit, c'est pas parce qu'on a du mal à construire un appareil conceptuel qui nous permettrait de repérer, en fait, la présence, plutôt que l'exercice d'ailleurs, de formes de pouvoir symboliques, qu'on doit qu'on doit faire comme si elles n'existaient pas, parce que finalement c'est le reproche qu'il adresse à Dal. Et donc on ne peut pas glisser de la question épistémologique, qui est une vraie question, à la question substantielle. Et donc je pense que c'est en partie pour régler cette question-là que lui justement déplace la focale de la question des modalités d'exercice à la question des effets, en fait, du pouvoir, et enfin, il me semble, voilà, je dirais ça.
Et je sais pas si... Alors, il y avait Christian, et puis après, monsieur, on s'arrêtera là pour les questions. Voilà.
D'accord. Moi, c'est moins des questions, pardon mon filet de voix, c'est moins des questions, peut-être que des remarques, en fait, juste deux remarques. La première, c'est qu'il me semble qu'il est assez intéressant finalement de mobiliser l'analyse que fait Wartenberg des formes d'exercice de pouvoir, et en particulier du phénomène de l'alignement social. Mmh. Ça permet quand même de sortir un peu de l'analyse stratégique interactionniste de type Lovettien. Ouais. Il est un peu focalisé, un peu obsédé en fait par les problèmes d'interaction stratégique. Et même si par ailleurs il évoque des phénomènes de pouvoir collectif ou même l'idéologie de la troisième partie du livre, mais essentiellement quand même c'est des formes stratégiques. Donc c'est intéressant de montrer que finalement le pouvoir de A sur B, c'est pas le pouvoir de A sur B, c'est un pouvoir avec des prérequis tels que A.
Qui contraint d'ailleurs aussi bien A.
C'est un capital d'alignement symbolique qui va mobiliser, par exemple, le rapport de pouvoir entre le national et l'immigré. C'est le fait que l'immigré, quand il s'adresse au national, sait que derrière le national, en fait, il y a tout le national. Ouais. Un énorme alignement social, et quand on lui dit « tu n'es pas chez toi », c'est tout le national qui parle à travers A. Donc c'est intéressant de vous montrer que ces analyses-là doivent être largement focalisées avec une extension plus grande que l'interactionnisme. Donc ça me paraît intéressant. Ouais. Mais deuxième remarque, il y a peut-être quelque chose de récupérable aussi quand même dans les analyses de Luke, qui est le fait qu'elles permettent au fond de dépasser la conception préférentialiste finalement du consentement, de l'acquiescement aux relations de pouvoir. Parce qu'il y a toujours une tendance chez Luke à réfléchir de manière contrefactuelle, en disant au fond, on peut sortir de l'aspect purement préférentialiste des formes de consentement en cherchant contrefactuellement des situations dans lesquelles on pourrait ne pas acquiescer. Et on peut même recourir à des formes d'expérience sociale, ce que fait Martha Nussbaum par exemple avec son intérêt pour les femmes indiennes, en disant, certes, les femmes indiennes des basses castes par exemple acquiescent totalement au sort qui est le leur, mais en même temps on sait que si on peut expérimenter avec elles d'autres formes d'organisation sociale, du point de vue de l'hygiène, du point de vue des formes de servitude, du point de vue de la qualification de travail, au bout d'un certain temps, elles n'acquiesceront plus aux formes de vie, ce qu'on aura permis. Donc c'est une réalisation contrefactuelle de l'expérimentation qui a l'air de montrer que le préférentialisme va être dépassé finalement dans le cadre de l'analyse des formes. Donc c'est assez intéressant de récupérer aussi, à mon avis, de chez Luke, finalement, cette idée fond de la critique du préférentialisme, des préférences révélées finalement dans la forme du comportement. Ce qui nous revient d'ailleurs à l'excessif tout à l'heure sur la question des intérêts subjectifs et des intérêts objectifs aussi.
On en a pas mal parlé aussi ce matin avec l'intervention de Constance. Oui, effectivement, ça je ne l'ai pas mentionné, mais c'est d'autant plus faisable que, comme je l'ai souligné, ce que Wartenberg objecte à Lux, finalement, c'est de... Et d'ailleurs, ce que Lux reconnaît plus tard dans des articles des années 90, c'est que, finalement, il a confondu dans son article source pouvoir et domination. Et que lui, ce qui l'intéresse, en fait, dans l'article de 74, c'est la domination, qui affecte négativement les intérêts d'un individu. À partir du moment effectivement où on utilise cette notion d'intérêt, on va avoir besoin de faire une recherche de contrefactuel. Mais Wartenberg dit pas autre chose quand il définit lui-même la domination, c'est-à-dire que il continue de référer la domination à une violation d'un certain type d'intérêt, sans nécessairement d'ailleurs expliquer comment identifier cet intérêt, mais du coup la réflexion que mène Luke sur le statut des contrefactuels et la manière dont il est possible de les expérimenter peut tout à fait, à mon avis, être articulée à cet endroit-là avec celle de Wartenberg. Oui, complètement.
Alors, dernière question un peu courte, s'il vous plaît.
En fait, c'est un commentaire, mais en fait, c'est peut-être un approfondissement d'une piste qui a été amenée, qui est très, très intéressante. Je me disais si la différence entre la conception républicaine libérale de Philippe Pettit, justement, qui prend en compte, disons davantage des individus, qu'on conçoit la liberté comme une absence de domination, si la conception sociale de liberté est une forme plus dynamique, au sens où c'est non seulement une absence comme un état ou qu'un agent aurait ou non, ça serait plutôt une forme d'activité pratique de négation des rapports de domination qui existent, qui tient non seulement en compte l'absence de liberté chez les individus, mais notamment les groupes, et dans les implications pratiques, éthiques, politiques que ça peut avoir, avec un lien avec l'exposé qui pouvait venir avant, peut-être si une des conditions de la liberté sociale est le rapport à l'environnement, un certain contrôle, capacité d'agir sur les structures qui nous déterminent sur les différentes décisions qui affectent nos vies de manière positive, négative, ça implique d'une certaine manière la démocratie, mais au sens plus fort du terme, c'est la capacité d'agir, de participer aux processus de décision, que ce soit dans les institutions, dans les entreprises, oui, qui peuvent affecter la vie sociale, à la fois en tant qu'individu, mais en tant que membre d'un groupe particulier qui peut être stigmatisé, disons dominé en termes de classe, de genre et tout. Donc, ça amène une théorie critique féministe du pouvoir et de la liberté qui mène une forme d'émancipation comme activité pratique, oui, de libération, des formes même qui ne sont pas encore reconnues comme telles, comme des formes de domination, comme une remise en question. Donc, je trouve que c'est une conception qui est plus dynamique, plus ouverte, et qui peut amener une effective lutte contre les différentes formes de pouvoir négatif, alors qu'une conception juste, disons, libérale, républicaine, minimale, tient en compte des formes de pouvoir, de domination comme l'esclavage, des formes évidentes de pouvoir. Donc, on a un frein contre des formes de pouvoir qu'on a déjà d'emblée reconnues, mais on n'est pas capable d'amener une critique de ceux qui n'ont pas encore été reconnus comme des formes de pouvoir.
Oui, alors enfin, merci beaucoup pour cette remarque. Oui, enfin, c'est effectivement l'idée de penser la liberté comme une activité pratique, une activité sociale, de transformation du contexte même dans lequel on évolue. C'est effectivement. Et bon, alors, pour moi, il me paraît clair que sur le plan des implications politiques, ça implique une prise de parti forte pour des formes de démocratie. Qui place beaucoup plus que le néo-républicanisme, par exemple, l'accent sur la participation aussi. Mais après, je pense que Petite dirait aussi que l'idéal de non-domination est ouvert parce qu'il se prête à une... Parce qu'on on est censé pouvoir identifier de nouvelles formes de domination qui se... moi, ce que je reproche plutôt, c'est le caractère trop négatif, finalement, de... Et effectivement, du coup, je vois pas, enfin, ce que vous dites, je vois mal comment est-ce que ce travail de mise en évidence des formes de domination nouvelles et de transformation de ces contextes de domination pourrait s'effectuer si on s'assure pas par ailleurs que les individus ont les conditions qui leur permettent d'exercer un contrôle, que ce soit sur eux ou sur leur environnement. Donc oui, mais merci du coup.
Bon, je propose qu'on se retrouve à... Alors moi, j'ai 4h moins 10, on peut se retrouver à 5, débordant de 5 minutes, qui paraît raisonnable, oui, pour la deuxième partie de l'après-midi. Voilà. Merci à tous.